من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، la semaine dernière on s'est arrêté à comprendre de qui il s'agissait lorsqu'on parlait des Ahabish, puisqu'on a expliqué que l'armée des Mekwa qui se dirige vers Al-Madina est composée, les deux tiers de cette armée sont composés de ce qu'on a appelé l'Ahabish. Et on a expliqué que l'Ahabish, c'est le bras armé des Quraysh, des Mekwa. Ils ont un pacte d'alliance qui remonte à plusieurs générations, où ils se sont arrangés avec les Mekwas, moyennant compensation financière, ils défendent la Mecque quand ils ont besoin de leur service. Et ici, pour la bataille de Uhud, ils louent leur service. Et donc on avait parlé un petit peu du contexte le contexte dans lequel est née cette alliance et ce pacte qu'on a appelé le pacte de l'Ahabish, qui a été conclu au sud de la Mecque, à une dizaine de kilomètres au sud de la Mecque, sur un mont, une montagne qu'on appelle le mont Hubaysh. C'est pour ça qu'on a appelé ce pacte l'Ahabish, même si on avait expliqué qu'il y avait plusieurs autres versions sur la nomination de ce pacte. On a rappelé la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est authentique en tout cas, elle va jusqu'à Adnan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdillah, Ibn Abdil Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. Dans tous ceux qu'on a cités, il y en a deux qui sont importants, en tout cas pour ce qu'on a raconté. Tout d'abord, An-Nadr ibn Kinana. Nadr ibn Kinana est à peu près au milieu dans tout ce qu'on a cité. Je vais répéter la lignée, mais m'arrêter cette fois à Nadr ibn Kinana pour savoir jusqu'où on s'arrête pour savoir de qui il s'agit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن النضر ابن كنانة. En quoi il est important? Il faut savoir que An-Nadr, dans les ancêtres du prophète sallam, celui qu'on appelait Nadr, fils de Kinana, An-Nadr ibn Kinana, c'est de lui que va découler tous ceux qu'on appelle les Quraysh. Et c'est même lui qui aurait été surnommé Quraysh. C'était un surnom qu'on lui donnait, Quraysh. Et donc de lui Tous ceux qui vont descendre de lui, ça va donner des tribus. Donc on est à plusieurs générations avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui descendent de lui, c'est ceux qu'on appelle les Quraysh. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit la semaine dernière. C'est que souvent, on parle des Quraysh et on parle des Bani Kinana. C'est qui les Bani Kinana? Bani, en arabe, c'est le pluriel de Ibn. Les enfants de Bani, c'est les enfants de les fils d'eux. Et c'est comme ça, il y en a les tribus, c'est qu'il y avait un ancêtre, il y avait plusieurs enfants, c'était sa famille. Ensuite, ses enfants donnaient naissance à d'autres enfants, qui eux donnaient naissance à d'autres enfants, et après ils étaient tellement nombreux, au fur et à mesure des générations, en plus quelquefois ils avaient régulièrement, souvent plusieurs épouses, donc ils avaient vraiment beaucoup d'enfants, etc. Génération après génération, on disait, c'est la tribu untel. Donc les Bani Kinana, de manière générale, ce sont tous ceux qui descendent de Kinana. Les fils de Kinana, Bani Kinana. Ce sont ceux qui descendent de Kinana. Alors si Quraysh, c'est An-Nadr ibn Kinana, Nadr fils de Kinana. Pourquoi quelquefois on dit les Quraysh se sont alliés avec les Bani Kinana, alors qu'eux-mêmes font partie des Bani Kinana? Eh bien, de manière générale, oui, les Quraysh font partie des Bani Kinana, puisque celui qui était surnommé Quraysh, c'est-à-dire An-Nadr ibn Kinana, c'est le fils de Kinana. Mais en fait, quand on dit ça, c'est pour dissocier entre An-Nadr ibn Kinana et tous les autres descendants de Kinana. Quand on dit les Bani Kinana, généralement, on parle de tous, sauf de Nadr ibn Kinana, un des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui était à part, même si c'est un des fils des Kinana. Parce que dans le jeu des alliances et des pactes, les autres fils de Kinana étaient ensemble, et Quraysh, c'est-à-dire Nadr ibn Kinana, était à part. Et c'est pour ça qu'on a dit que dans les Ahabish, il y a les Bani Kinana. On parle de qui? On parle de tous les frères de Nadr. Amma Nadr, lui, c'est Quraysh. Et on a dit que les enfants de Quraysh, les descendants de Quraysh, ils se sont alliés avec les autres Bani Kinana. Et c'est les autres Bani Kinana qui ont fait partie de l'Ahabish. Ça, c'était un point qui était important à rappeler. Ensuite, l'autre point important à rappeler, c'était à propos de Qusay ibn Kilab. Une information que je devais donner. Et ensuite, je me suis rendu compte que je l'ai zappé, je ne l'ai pas donné. C'est à propos d'un autre ancêtre du prophète, Qusay ibn Kilab. Donc, Qusay ibn Kilab, on est où? On est au sixième, au cinquième ancêtre du prophète. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, c'est celui, comme on l'a dit la semaine dernière, qui a repris la Kaaba à la tribu des Khouza'a. Puisqu'on avait expliqué qu'à la base, c'était les Jurhum qui avaient l'autorité à la Kaaba. Ensuite, les Khouza'a les ont attaqués. Ils ont pris la Kaaba. Ils ont rejeté les Bani Jurhum. Et Qusay ibn Kilab, son père est mort alors qu'il était très jeune, et donc il a été emmené par sa mère pour vivre du côté du Cham, puisqu'elle s'était remariée avec un homme, etc. Et quand il a grandi, il avait été humilié, comme on avait expliqué, le Mouhim, et sa mère lui a raconté son histoire en lui disant, tu descends d'une tribu importante, des Bani Jurhum, mais c'est juste que les Khouza'a vous ont pris l'autorité de la Mecque. Et donc il est revenu à Mecca, il s'est marié avec une fille des Bani Khouza'a, comme on avait expliqué, le Mouhim, jusqu'à ce qu'il ait obtenu que son beau-père laisse dans ses dernières recommandations que Qusay ibn Kilab doit hériter de l'autorité sur la Kaaba et sur la Mecque. Il va y avoir une guerre parce que les fils de cet homme ne sont pas d'accord. Donc ils vont faire la guerre à Qusay ibn Kilab et finalement ça va aboutir sur un accord qui est que la recommandation et la dernière volonté de cet homme doit être respectée et mise en pratique, c'est-à-dire Qusay ibn Kilab récupère l'autorité de Mecca. Qusay ibn Kilab, son vrai nom c'est Zayd ibn Kilab. Il a été surnommé Qusay Qusay, c'est un surnom. Qusay, c'est le qasi. En arabe, ça veut dire celui qui est éloigné, qui est loin. Qusay, c'est le diminutif, le petit éloigné. Pourquoi? Parce qu'il a été éloigné, sa mère, elle l'a pris, comme on a dit, elle est partie loin de la Mecque. Et parce que sa tribu aussi, elle a été éloignée de la Mecque, puisque c'est les Khouza'a qui ont pris Mecca. Et donc c'est pour ça qu'il a été surnommé Qusay, le petit qui a été éloigné, yani. Et subhanallah, on le connaît plus sous ce nom-là, sous son surnom, plutôt que sous son vrai nom qui est Zayd ibn Kilab. Non. Qusay ibn Kilab, il a eu trois fils. Il a eu trois fils. Il a eu Abduddar. Il a eu. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Il a eu Abdoumanaf. Et il a eu Abdul-Uzza. Qusay ibn Kilab, il y a eu trois fils, Abduddar, Abdoumanaf et Abdul-Uzza. Et donc Abdoumanaf, c'est lui l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdillah, ibn Abdil-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdimanaf. Qusay ibn Kilab, il a hérité de quoi? Il s'occupait de quoi à la Mecque? Il s'occupait de ce qu'on appelle As-Siqaya. Il abreuvait les pèlerins. Il s'occupait de Ar-Rifada. Il offrait l'hospitalité et nourrissait l'hébergement et la nourriture, ce qu'on appelait Ar-Rifada des pèlerins. Donc As-Siqaya, Ar-Rifada. Il s'occupait, Qusay ibn Kilab, de Al-Hijaba, c'est s'occuper de la Kaaba, l'habiller avec le tissu, avoir les clés, ouvrir, fermer, nettoyer l'intérieur, etc. Ça, c'est Al-Hijaba. Il s'occupait, en plus de As-Siqaya, Al-Rifada et Al-Hijaba, il avait le Liwa, l'étendard. En temps de guerre, il y avait un étendard, on le dépliait, etc. C'est lui qui avait le Liwa, c'est-à-dire c'est lui qui avait la décision final de faire la guerre ou de cesser une guerre, de ranger l'étendard. Et enfin, ça il ne l'avait pas avant lui, c'est lui qui l'a mis en place. Il a bâti une maison qu'on a appelée Darun Nadwa, une sorte de parlement, d'assemblée, dans laquelle les doyens, les notables de la ville se réunissaient pour prendre des décisions importantes. C'est aussi là que les gens se rendaient pour se marier. Ils se mariaient devant les doyens. Ils prenaient à témoin les doyens, les mariages se faisaient de manière orale. C'est aussi là que les grandes décisions étaient prises pour la ville, pour le pèlerinage, pour l'organisation du pèlerinage, pour la guerre, etc., etc. Donc, Qusay ibn Kilab, il a trois fils. Il a l'ancêtre du prophète, Abdou Manaf, et c'est l'aîné. Il a Abduddar et il a Abdul-Uzza. La logique voudrait qu'il donne à son aîné, l'ancêtre du prophète Abdu-Manaf, l'autorité sur Mecca et la responsabilité de ce qu'on a appelé Siqaya, Ar-Rifada, Al-Hijaba, Al-Liwa, Dar-Nadwa. Mais en fait, de son vivant, du vivant de Qusay ibn Kilab, il va voir son aîné Abdoumanaf être un bon commerçant et il va gagner de l'importance et une grande notoriété. Il va devenir un grand notable et quelqu'un de respecté, un chef de la Mecque. Il va le devenir alors que son père est encore vivant. Alors que Abduddar, qui lui est l'aîné, est méconnu. Afwan, c'est Abdoumanaf l'aîné. Et Abduddar, lui, est méconnu, etc. À la Kulihal, Qusay ibn Kilab, il va donc décider. Il va se dire, mon fils Abdoumanaf, il a déjà l'autorité, d'une certaine manière, il est connu, etc. Mais Smito Abduddar, son frère lui fait de l'ombre, etc. Il faut qu'il puisse, entre guillemets, briller. Et donc, il va le faire briller en lui laissant à lui la responsabilité de ces cinq choses. As-siqaya, abreuver. Al-rifada, héberger et nourrir les pèlerins. Al-hijaba, s'occuper de la Kaaba. Al-liwa, l'étendard. Et Dar al-Nadwa, la maison, le parlement. Et il se trouve que, à la mort de Qusay ibn Kilab, Abdou Manaf, il a des fils. Abdou Dar, il a des fils. Abdou Dar, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et il commence petit à petit, en prenant l'âge, à donner cette responsabilité à ses fils. Abdou Manaf, ses fils à lui ne sont pas contents. C'est qui ses fils? C'est Abdou Shams, Nawfal, Al-Muttalib et Hashim. Hashim, ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdillah, Ibn Abdelmuttalib, Ibn Hashim. On s'approche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Hashim, ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses frères, Nawfal, Abdou Shams, ils ne sont pas contents. Et le Muttalib, Abdou Shams, Nawfal et Hashim, l'ancêtre du prophète, ils ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Ils disent, normalement, c'était à notre père que devaient revenir ses responsabilités. On a accepté que notre oncle, il ait ses responsabilités parce que c'était la volonté de son père. Mais maintenant que son père se fait vieux et que nos parents vont décéder, après le décès de nos pères, ça doit nous revenir. Et en effet, au décès des deux frères, Abdou Manaf et Abdou Dar, les cousins se sont fait la guerre. Les fils de Abdou Dar, qui avaient cette responsabilité de la Mecque, et les fils de Abdou Manaf, ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui considéraient que ça leur revenait de droit, ils se sont fait la guerre. Et finalement, ils ont trouvé un accord. L'accord, c'était quoi? C'était de se partager entre les deux lignées, les responsabilités. Les Abdou Dar qui avaient les cinq responsabilités, ils ont dit, on garde Dar al-Nadwa, le parlement, c'est-à-dire ils gardaient l'autorité politique. On garde al-Liwa, prendre les décisions de faire la guerre ou de faire la paix. Et on garde al-Hijab, s'occuper de la Kaaba, ouvrir la Kaaba, la fermer, faire le tissu qui habille la Kaaba, nettoyer la Kaaba. Et on vous laisse al-rifada ou al-siqaya, abreuver, nourrir et héberger les pèlerins. Et donc les enfants, les fils de Abdou Manaf, ils ont repris al-siqaya et Rifada, mais ils l'ont donné à un seul d'entre eux, à Hashim, l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Hashim, ce n'est pas son vrai nom. Vous allez me dire, tous ils ont des surnoms. Hashim, son vrai nom, c'était Amr. Son vrai nom, c'était Amr. Et Hashim, c'était son surnom. On le connaît plus sous son surnom que sous son vrai nom. Pourquoi Hashim? Ça vient de Hashama. Hashama en arabe, ça veut dire effrité, découpé. Et en fait, il y a eu une période de famine et de sécheresse. Et à l'époque, on donnait du pain et de l'eau aux pèlerins. C'était ce qu'on leur donnait. Du pain et de l'eau. Et comme il y a eu une période de sécheresse, il n'y avait plus de pain, plus de farine. Hashim est parti jusqu'en Palestine pour acheter de la farine. Beaucoup de farine. Parce qu'il n'y en avait plus dans leur coin. Donc il a dû aller pour en trouver jusqu'en Palestine. Il a acheté des sacs et des sacs de farine et il est revenu avec à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il avait cette responsabilité. Pour lui, c'était tellement important. Il pouvait dire, oh, c'est la famine, khalas, qu'est-ce que tu veux faire? On va leur donner ce qu'on peut. Non. Même s'il fallait aller jusqu'en Palestine et acheter ses sacs de farine, il est parti, il a acheté ses sacs de farine parce que c'était sa responsabilité et c'était un honneur pour sa famille. Et considérer que ses ancêtres, ils s'étaient battus, sacrifiés pour avoir cet honneur. Donc il est parti jusqu'en Palestine, il a acheté la farine, il est revenu. Et il a fait mieux que ça. À partir de ce moment-là, il a institué une nouvelle chose. Il a dit, on donne juste du pain et de l'eau. On va leur donner farid. On va leur donner un farid. C'est quoi farid? C'est l'ancêtre. Parce que l'ancêtre, il y a dans les êtres humains, mais il y a aussi dans les plats cuisinés, il y a aussi les ancêtres. C'est l'ancêtre de ce qu'on appelle au Maroc rfissa et de ce qu'en Algérie on appelle charchoura. Non. Il y a de la sauce, de la viande, quelquefois même des légumes, et c'est mélangé avec une sorte de pain ou de raïef, enfin, chaque région comment elle le fait. Le mohim, quelque chose qui fait avec de la pâte, du pain, et qu'on mélange directement avec de la sauce, de la viande, etc. Et bien, farid, c'était l'ancêtre de ces plats-là, puisque c'était un mélange du pain avec la viande, etc. Et Hashim, donc, il s'est mis à montrer ce qu'il fallait faire. Ne donnez pas juste du pain aux pèlerins, faites le plat, cuisinez-leur de la viande avec de la sauce, et découpez le pain, mélangez-le avec la sauce et donnez-leur à manger. Et on disait, Hashama Amr al-Khubz, Amr, il découpe le pain. Et on l'appelait Hashim, celui qui découpe, yani, celui qui donne le pain mélangé avec la viande. Et depuis, il est connu sous ce surnom-là, Hashim. Non. Et donc, c'est Hashim qui va devenir le responsable. Et donc, le problème, c'est que Hashim, à un moment, il va vouloir se marier. Donc, il va décider d'aller demander en mariage une femme des Bani Najjar de Médine. La tribu des Bani Najjar, c'est une tribu qui est très étroitement liée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a un lien de parenté par le côté maternel. D'ailleurs, son propre père, Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abd al-Muttalib, il va se marier aussi avec une femme des Bani Najjar. C'est une habitude dans cette lignée de se marier avec une femme de l'Madina des Bani Najjar. Et donc, Hashim, il va se marier avec cette femme, sauf que il se marie avec elle et à un moment, juste après le mariage, il décide d'aller faire un voyage à Médine et il meurt à Médine. Il tombe malade là-bas, il meurt. Et donc sa femme, c'est une jeune mariée. Elle a pas dans, il la laisse enceinte. Au début, il ne le savait pas au moment où il est décédé, mais il va la laisser enceinte. Donc, elle va rester là dans sa famille. Et de l'autre côté, à la Mecque, ils apprennent que Hashim est décédé. C'était lui qui avait l'autorité sur héberger, nourrir et abreuver les pèlerins, sauf qu'il meurt et qu'il ne laisse pas de descendance. Donc, qu'est-ce qui va prendre la relève? C'est un de ses frères. On a dit ses frères, il y a Abdou Shams, Nawfal et le Muttalib. Et qu'est-ce qui va prendre la relève? C'est le Muttalib. Le Muttalib. Sauf que ce que le Muttalib ne sait pas et ses frères ne savent pas, c'est qu'en fait, quelques mois plus tard, la femme, la veuve qu'a laissée derrière lui, Hashim, et qui vit à Médine, elle va donner naissance à un fils qui sera l'héritier de Hashim, qu'elle va appeler Shaiba. Vous allez me dire, ouais, mais là on parle des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun ancêtre qui s'appelle Shaiba. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib. Eh bien, Abd al-Muttalib, c'est qu'un surnom. Son vrai nom, c'était Shaiba. Ça va, vous en sortez ou pas? Son vrai nom, c'était Shaiba. Pourquoi il a été surnommé Abd al-Muttalib? Parce que plus tard, al-Muttalib, l'oncle de Shaiba, va apprendre que son frère Hashim, quand il est décédé, en fait, sa femme, elle était enceinte et qu'elle a donné naissance à un garçon. Donc pour eux, c'était une grande nouvelle. Un garçon, un héritier. Sa lignée, elle s'est pas arrêtée. Il y en a un qui considérait que s'il n'y a pas de garçon, la lignée, elle s'est arrêtée. Donc quand il a su ça, il a tout de suite pris sa monture et il est parti à Médine. Et il a imploré sa mère de lui laisser Shayba pour qu'il prenne la relève, qu'il l'éduque à la Mecque et qu'il prenne la relève de son père et qu'il fasse perdurer le nom de son père et qu'il hérite de ce qu'il doit hériter, c'est-à-dire des responsabilités de Ar-Rifada et As-Siqaya, héberger, l'hospitalité, abreuver et nourrir les pèlerins. Et donc ça va être difficile pour cette mère, évidemment, mais finalement, elle va laisser partir son fils. Et il va le mettre derrière lui sur sa monture, un petit garçon. Et quand il arrive à la Mecque, les gens de la Mecque ne sont pas encore au courant qu'en fait, il était parti récupérer son neveu. Ils savent qu'il est parti pour un voyage et ils le voient venir avec un garçon. Et généralement, avant, quand on revenait avec un garçon ou avec quelqu'un, c'est qu'on avait fait quoi ? On avait acheté un esclave. Et les gens, ils ont dit « Abdul Muttalib ». C'est qui lui ? C'est l'esclave de Muttalib. Il l'a acheté. Et c'est comme ça que son surnom est arrivé, Abdul Muttalib. L'esclave de Muttalib. Et il a toujours été connu, subhanallah, sous ce surnom-là. Les gens l'appelaient Abdul Muttalib alors qu'il était le neveu de Muttalib. Il n'était pas l'esclave de Muttalib. Non. Ala kulli hal, ça nous a fait évader. Mais il faut qu'on revienne absolument à notre sujet principal qui est les préparatifs de la bataille de Uhud. Et ça, c'était pour permettre de comprendre qui était l'Ahabish. On a expliqué qu'on s'est arrêté où ? On s'est arrêté au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la lettre secrète de son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Dans cette lettre, il lui a dit quoi ? Il lui a dit: les Quraysh sont sortis avec une armée de 3000 hommes. Ils sont assoiffés de vengeance. Ils ont pris avec eux les poètes, les femmes, les émissaires, et ils ont même fait appel aux Ahabish à un tel point que cette armée de 3000 hommes, 2000 de ces 3000 hommes, donc deux tiers de cette armée, ce sont des Ahabish. Ahabish, c'était vraiment, on les voyait comme une milice armée qui était redoutable à la guerre. Et dans cette armée de 3000 hommes, il y a 200 cavaliers, une cavalerie de 200 hommes. Cavalier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 200 hommes sur un cheval. Il y a 200 chevaux. Et quand on combattait avec le cheval, c'était terrible. Le professeur Salim reçoit cette lettre à Quba. On est un samedi, là, on a tous les samedis, il a l'habitude d'aller à Quba. Il demande à Ubay ibn Ka'b de lui lire la lettre et lui lit la lettre. Le professeur Salim dit à Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, n'en parle à personne. Et il retourne immédiatement, il écourte sa visite à Quba, il retourne immédiatement à Médine. Quba et Médine, il y a juste 5 à 6 kilomètres entre Quba et Médine, donc ce n'est pas loin. Donc il retourne immédiatement à Médine et il décrète, les premières mesures qu'il prend, c'est les mesures d'urgence. Parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore exactement aller où l'armée. Tout ce qu'il sait, c'est que le messager qui lui a ramené cette lettre secrète est sorti de la Mecque en même temps que l'armée. Mais bon, le messager, il a fait tout son possible pour arriver le plus vite possible. Il a mis 3 jours et 3 nuits. Et généralement, quand on marchait normalement et quand on voyageait normalement sur une monture, on traversait tout ce trajet en une semaine, voire en une dizaine de jours. Donc le professeur Hassim ne sait pas où ils sont exactement. Est-ce qu'ils sont tous ensemble ? Est-ce qu'ils se sont éparpillés ? Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui faut encore plus d'informations sur cette armée. Donc il va envoyer des éclaireurs et leur demander d'aller chercher des informations et de voir cette armée, de confirmer déjà le nombre et de confirmer, de lui dire ils sont où. Parce qu'il sait qu'ils arrivent sur Médine. Le projet de cette armée à la base, c'est pas d'aller à Uhud. Uhud, comme on va la voir, elle va être sur leur passage, mais leur projet, c'est d'attaquer Médine et de raser la ville de Médine avec tout ce qu'elle contient. Pour mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à ce qu'ils appellent le problème de l'islam. Donc le professeur Hassan, première chose, il envoie des éclaireurs pour avoir plus d'informations. Deuxième chose, il informe les notables, les chefs des Muhajir et des Ansar, les compagnons originaires de la Mecque et les compagnons originaires de Médine, il les informe de cette information et il leur dit il faut qu'on se réunisse pour voir ce qu'on va faire. Autre chose, le professeur Salem demande à ce que, comme il ne sait pas où est-ce qu'est cette armée, qu'elle est peut-être aux portes de Médine, il n'en sait rien, il demande à ce qu'on redouble de vigilance et à ce qu'on garde toutes les portes d'entrée de la ville de Médine, donc il y a des gardes, qu'on garde tous les quartiers et qu'on soit extrêmement vigilant s'il y a des gens étrangers à Médine qui entrent dans la ville. Qu'on s'assure bien de leur identité, de qui ils sont, etc. Que ne se faufilent pas des gens de cette armée pour attaquer la ville de Médine de l'intérieur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se réunir avec les principaux chefs parmi les compagnons, parmi les muhajirs et les ansars. Les muhajirs, c'est les compagnons qui ont fait l'émigration de la Mecque vers Médine. Ce sont ceux qui sont originaires de Mecca. Et al-ansar, les partisans de Médine, ceux qui sont originaires de Médine, qui ont accueilli les muhajirs chez eux. Et parmi les Médinois, le professeur Salem est obligé maintenant de compter dans ses consultations avec des gens qu'on va appeler par la suite, à ce moment-là on ne les appelle pas encore comme ça, qu'on va appeler par la suite al-munafiqun, les hypocrites. Parce que je vous avais expliqué qu'avant la bataille de Badr, il y avait des gens qui n'étaient pas convertis à l'islam et qui avaient des liens et qui rusaient secrètement avec les Quraysh pour faire du tort à l'islam, et qui n'étaient pas convertis à l'islam. Mais lorsque la bataille de Badr va arriver, qu'ils vont voir que tous les notables de la Mecque ont été tués à la bataille de Badr, et qu'ils vont voir également qu'ils ont fait 70 prisonniers, ils vont avoir peur. Et donc ils vont se convertir à l'islam, pas par conviction, mais par crainte et par ruse. Par crainte des représailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pratique aucune représaille contre quelqu'un qui ne se convertit pas à l'islam. Les représailles, elles étaient là quand quelqu'un trahissait la parole ou trahissait les pactes ou les alliances. Peu importe qu'il soit musulman ou non. Mais eux, ils ont considéré, pour deux raisons, par crainte de représailles et pour ruser contre les musulmans de l'intérieur, pour participer pleinement aux prises de décision, ils ont décidé en apparence de se convertir à l'islam. Et le chef de ce groupe d'hypocrites, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et évidemment, il participe à la consultation que le prophète met en place pour prendre une décision. Que faire? Donc il explique le contenu de la lettre secrète que lui a envoyée Al-Abbas, son oncle, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Et il dit à tous ces gens, à tous les compagnons qui sont devant lui, il leur dit, une armée de 3000 hommes vient, se dirige vers Médine. Ils ont pour objectif de raser la ville de Médine et de tuer tous ceux qui vivent à Médine. Et dans cette armée, il y a 2000 ahabish. Et dans cette armée, il y a 200 cavaliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire deux choses. Il va prendre la parole, il va dire deux choses. Et ensuite, il va leur laisser la parole. La première chose qu'il dit, c'est « J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu des vaches être égorgées. J'ai vu que je tenais une épée qui était abîmée. » Vous savez, quand une épée... on frappe avec que il lui manque des petits bouts, des éclats, hein, des petites, ça fait des trous sur la lame. Il dit, j'ai vu ça sur une épée que je tenais. Non. Et j'ai vu que je rentrais ma main dans un dour, un bouclier ferme, lourd. Il dit, je pense, je l'interprète dans le bien. Il me semble. Quand on interprète un rêve, ou quand quelqu'un nous raconte un rêve, on lui dit khayran ra'ayt, c'est-à-dire on espère le bien. Khayran ra'ayt, tu n'as vu que du bien. Sous-entendu, on demande à Allah Azzawajal que ce que tu as vu en rêve ne se transforme qu'en bien pour toi. Et donc c'est en ce sens que le prophète Sam dit awwaltuha khayra. Je l'interprète dans le bien, c'est-à-dire j'espère que ne sortira de ce rêve que le bien. Il explique tout d'abord qu'il considère très probablement que avoir vu en rêve des vaches se faire égorger, il dit cette guerre va probablement ôter la vie de plusieurs de mes compagnons. J'ai vu qu'une épée que je tenais était abîmée, je pense que ça veut dire qu'un membre important de ma famille va être tué dans cette guerre. Et j'ai vu que je mettais mon bras dans un bouclier ferme, solide, ou dans une armure, parce que dor en arabe, ça peut vouloir dire armure, ça peut vouloir dire bouclier. Je pense que ça veut dire que la ville de Médine nous protégera. Que l'armure, le bouclier, c'est Médine. D'où, justement, il va dire la deuxième chose, et dit, donc mon avis, c'est que nous restions à Médine. Nous n'allons pas avec une armée à leur rencontre. Parce que quelle que soit l'armée qu'on va rassembler, elle sera moins nombreuse et moins forte, parce que chez eux, il y a 2000 ahabis et 200 cavaliers, on n'aura jamais autant de cavaliers. Donc ils seront plus que nous en nombre, ils seront plus de cavaliers que nous, et ils seront plus redoutables que nous parce qu'ils ont 2000 ahabis. C'est des experts de la guerre. Si c'était que les Quraysh, ça va. Parce que leur connaissance de la guerre, c'est comme la connaissance du professeur sallam et de ses alliés de Médine. Et entre guillemets, ils sont à égalité. Mais là, c'est l'Ahabish. Donc il dit le mieux, c'est de rester à Médine. Parce qu'en étant à Médine, on est protégé par des murs. Et on peut tenir un siège plusieurs semaines. Et même s'ils nous attaquent à l'intérieur, on est protégé par des murs, on peut faire des embuscades, on peut faire des pièges, etc. On n'est pas face à face, un petit nombre contre un grand nombre. Et leur cavalerie redoutable de 200 cavaliers ne leur servira à rien dans Médine. Les cavaliers, quand est-ce qu'ils servent à quelque chose, ceux qui combattent sur les chevaux? C'est quand ils ont un grand espace où ils peuvent galoper avec les chevaux et frapper leurs ennemis. Mais avec un cheval, dans des petites ruelles, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Tu es obligé de descendre du cheval, regarder, mais tu es attaqué par des gens qui se cachent dans les maisons, sur les terrasses, sur les toits, etc. Donc, il est mieux de combattre dans Médine. Prophète, il n'est pas un expert militaire. Il donne son avis, pas en tant que prophète. C'est pas une révélation. Si c'était une révélation, ce serait pas discutable. Et c'est pour ça qu'il consulte. Il demande l'avis, il dit, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Et là, les compagnons disent, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, kunna natamanna hadha al-yawm. Nous espérions que ce jour arrive. C'est quel compagnon qui parle? Tous ceux qui étaient absents à la bataille de Badr. Lianna, à la base, la bataille de Badr, un an plus tôt, c'était juste une expédition pour récupérer la caravane d'Abou Soufiane. Et elle s'est transformée en une grande guerre parce que les Quraysh, ils ont voulu protéger leur caravane, ils ont envoyé une armée de 1000 hommes. Et pourtant, le prophète Hassan l'a gagné avec 300 et quelques hommes. Donc, quand ils ont vu le prophète Hassan revenir, ils étaient pleins de regrets de ne pas être sortis. Mais parce qu'ils pensaient que c'était qu'une simple expédition. Ils ne savaient pas que c'était une guerre. Et donc, ils ont dit, et ils avaient donné leur promesse après Badr. Beaucoup d'entre eux ont donné leur promesse. Ils donnent leur engagement que n'importe quelle grande guerre qui arrivera par la suite, ils ne la rateront pas. Beaucoup de compagnons vont donner cet engagement. C'est d'ailleurs à ça que fait référence un verset dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayh faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila » Il en est parmi les croyants des personnes qui sont des hommes dans le sens ils ont atteint un haut degré de foi. Min al-mu'minina rijal sadaqu ma'ahadu Allah alayh. Ils ont rendu véridique la promesse et l'engagement qu'ils ont pris auprès d'Allah. Et ils n'ont pas changé leur accord, leur engagement. Ce verset, il a été révélé en particulier pour un compagnon dont on va parler plus tard, Anas ibn Nadr, radiallahu anhu, qui va mourir à Uhud. Pourquoi ? Parce qu'il avait donné son engagement que plus jamais après Badr, il ne ratera un événement comme celui de Badr. On rappellera en détail ce verset et ce qui va arriver à ce compagnon, Anas ibn Nadr, radiallahu anhu, lorsqu'on arrivera à lui. Et donc ces compagnons, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, Ya Rasulallah, kunna natamanna hadha al-yawm. On espérait, nous, que ce jour arrive. Et nous invoquions, nous implorions Allah qu'il nous ramène ce jour. Et Allah nous l'a ramené. Et maintenant qu'on l'a, on va rester dans nos maisons et attendre qu'ils arrivent. Il faut qu'on y aille. Laisse-nous aller à leur rencontre. Et beaucoup de compagnons sont de cet avis. Parmi al-Muhajir, les Muhajiroun, et parmi al-Ansar, les Médinois, et il y a aussi un homme qui va prendre la parole. Cet homme, c'est le chef des hypocrites, qui maintenant, comme il est en apparence converti à l'islam, il a le droit de prendre part aux consultations et aux prises de décisions décisives. Il va dire, « Ya Rasulallah, aqim bil Madina, reste à Médine, wa la takhruj ilayhim, et ne sors pas pour aller à la rencontre des ennemis. فَوَاللَّهِ مَا خَرَجْنَا مِنْهَا قَطْ لِعَدُوٍ لَنَا إِلَّا أَصَابَ مِنَّا وَمَا دَخَلَ إِلَيْنَا إِلَّا أَصَبْنَا مِنَّا. Parce que nos expériences montrent qu'à chaque fois qu'on a eu des guerres et qu'il y a eu des ennemis qui se sont présentés à nous, à chaque fois qu'on est sorti de la ville pour aller à l'attaque, c'est eux qui ont eu le dessus. Et à chaque fois qu'on les laissait rentrer dans la ville, c'est nous qui avions le dessus. Fada'hum ya Rasulallah. Restons dans la ville et laissons-les faire. Fa'in aqamu bi sharri majlis. S'ils décident de ne pas rentrer parce qu'il se sera trop risqué pour eux, ils vont rester campés aux abords de la ville, ils seront dans un mauvais endroit parce que combien de temps ils vont rester aux abords de la ville ? Dans les camps, dans les tentes. À un moment ou à un autre, il faudra qu'ils prennent une décision soit de rentrer dans Médine, soit de rentrer chez eux. Donc s'ils restent, tant mieux pour nous. Et eux, ils seront dans un mauvais endroit. Nous, on sera tranquille chez nous dans le confort et ils seront dans des tentes dans le désert. وَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا قَاتَلَهُمُ الرِّجَالُ فِي وُجُوهِهِمْ. Et s'ils décident de rentrer dans la ville de Médine, nos hommes les combattront face à face, visage contre visage. Homme contre homme. Naam. Il y en a tête à tête, comme on dirait nous. وَرَمَاهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبِيَانُ بِالْحِجَارَةِ مِنْ فَوْقِهِمْ. Et en plus de ça, il y aura nos femmes et nos enfants dans les maisons et depuis les terrasses, depuis les toits, ils leur balanceront tout ce qu'ils peuvent, les pierres, etc. Ah. Pourtant, on a dit c'est un hypocrite. C'est de bonnes idées quand même, de bons arguments qu'il sort. وَإِنْ رَجَعُوا خَائِبِينَ كَمَا جَاءُوا. Et s'ils retournent à la Mecque, eh bien ils retourneront en échec, ils retourneront défaits comme ils sont venus, en n'ayant rien gagné. Ah. Pourquoi il dit ça? Parce que les arguments qu'il donne, ils sont bons. Est-ce qu'il est vraiment sincère? Il dit ça, en réalité, évidemment, il ne peut pas dire la vraie raison. Parce qu'il ne veut pas participer à la guerre. Puisque lui, il ruse secrètement contre l'islam et contre les musulmans. Mais si on prend la décision d'aller à leur rencontre, armée face armée dans le désert, il sera obligé d'être là. Et il ne veut pas prendre part au combat, et surtout, il ne veut pas prendre le risque de mourir pour un combat auquel il ne croit pas. Donc, il essaie de trouver des vrais, des bons arguments pour convaincre le professeur de rester, comme ça, il pourra toujours prétendre qu'il a combattu dans une ruelle, hein, ou depuis sa maison en faisant des embuscades, mais en vérité, il sera tranquille chez lui en train de regarder Netflix. Ben non, à l'époque, ça n'existait pas encore, Netflix. Non. Et donc, il veut éviter qu'on découvre au final qu'il est un hypocrite et qu'il ne veut pas prendre part à tous ces combats. Du coup, le professeur Salem va continuer à consulter ses compagnons, mais à part lui, presque tous sont unanimes pour dire qu'il faut aller à leur rencontre. Parce qu'ils vont penser, certains sortent l'argument, ils vont dire, ils vont penser qu'on est devenu lâche et qu'on est faible. Et c'est pour ça qu'on reste dans les maisons, on se cache. Et Badr, on était moins nombreux mais parce qu'on a été brave et courageux, on a gagné. Il n'y a pas de raison que ça change. Et en plus, cette fois, même si on n'arrive pas à être aussi nombreux qu'eux, ou plus nombreux qu'eux, on sera quand même plus nombreux qu'à Badr. Le professeur Hassem continue à prendre la parole, à demander à consulter, pour voir s'il n'y a toujours pas quelque chose de décisif qui ferait pencher la balance de l'autre côté. Parce que, évidemment, Abdullah ibn Ubay ibn Saloum, c'est tout sauf décisif. Il y en a même si officiellement il n'est pas encore hypocrite, tout le monde se méfie de lui. On sait très bien qu'il n'est pas net. Et c'est par la suite, justement, par quelque chose qu'il va entreprendre sur le chemin vers Uhud, que là, ce sera signé hypocrite. Mais jusqu'à là, il n'y a encore rien fait vraiment en apparence de grave, mais on sent que la personne, il y a quelque chose. Ça arrive quelquefois, on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas de preuve. Et donc l'islam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu ne peux pas accuser la personne, tant que tu n'as pas de preuve. Tu attends d'avoir l'argument ou la preuve. Et là, l'oncle du professeur Sama, Hamza ibn Abdelmuttalib, va prendre la parole. Et il va dire, Ya Rasulallah, Amma ana, fa wallahi, la at'amu ta'aman, hatta ujalidahum bi sayfi hadha kharij al-Madina. Ô messager d'Allah, en ce qui me concerne, je jure par Allah que je ne goûterai plus à aucune nourriture. Je ne mange plus. Il fait un serment. Jusqu'à ce que j'aille les combattre avec cette épée à l'extérieur de Médine. La puissance, la fierté, le courage, la bravoure de Hamza ibn Abdel Muttalib. Et il sait que sa tête est mise à prix. La personne à qui on en veut le plus après le professeur Hassan pour la bataille de Badr chez les Mekwa, c'est Hamza ibn Abdel Muttalib. À un tel point, comme on le sait, qu'un esclave qui s'appelle Wahshi est dans l'armée des Mekwa et que lui, il a une seule mission à remplir, c'est tuer Hamza. Il ne doit s'occuper de rien d'autre sauf tuer Hamza. Et c'était quelqu'un qui était un expert en coups de lance. Il pouvait avoir les obstacles qu'il voulait, même une grande distance, il était capable d'atteindre sa cible. On disait, par excès, par exagération évidemment, qu'il était capable de toucher un oiseau en plein vol, et entre lui et cet oiseau, la poussière, les montagnes, etc. Mais évidemment, on disait ça par excès, exagération. Pour dire tellement il était très bon dans le tir à la lance. Et on lui a promis sa libération et son pesant en or, s'il remplit cette mission. Malgré tout, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui sait qu'on lui en veut, qui sait qu'on vient se venger aussi en particulier personnellement contre lui, il va dire « Wallahi ya Rasulallah, la at'amu ta'aman hatta ujalidahum bi sayfi hadha kharij al-Madina. » Je jure par Allah que je ne goûterai pas, je ne savourerai pas la nourriture. Tant que je ne les aurais pas combattus avec cette épée. Et là, le professeur Hassan Khlas, presque tout le monde veut sortir à Médine. Sortir de Médine. Qu'il va sortir de Médine. Certains pourraient dire, mais le rêve qu'il avait fait, quand le professeur Hassan lui-même l'a interprété et qu'il a dit, j'interprète les vaches qui sont égorgées comme beaucoup de gens parmi mes compagnons qui vont être tués. J'interprète l'épée qui est abîmée comme le fait que quelqu'un de ma famille va être tué. J'interprète le fait que j'ai mis mon bras dans un bouclier ou dans une armure comme le fait que la Médine va nous protéger. On pourrait dire, mais pourquoi ils n'ont pas suivi l'intuition du professeur Hassan? D'abord parce que le professeur Hassan ne leur a pas dit c'est un ordre, c'est une révélation. Il leur a dit c'est son idée, son interprétation. Si c'était un ordre ou une révélation, le professeur Hassan n'aurait même pas consulté. Il aurait dit, Allah Azzawajal nous a dit de faire ceci, faire cela. C'est tout, nous le faisons. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on peut également dire, mais ça s'est réalisé. Vous allez me dire, non, ils sont sortis de Médine. Médine ne les a pas protégés. Vous verrez à la fin de la bataille de Uhud que si. Parce que à la fin de la bataille de Uhud, quand le professeur Hassan et quelques compagnons vont survivre, il va y avoir une dissension dans l'armée des Mekwa. Ils vont vouloir terminer le travail, entre guillemets. Ils vont dire, ouais, mais il y a encore des survivants, donc ils vont retourner à Médine. À Médine, il y a aussi des civils là-bas, donc des survivants, des gens qui sont musulmans. On n'a pas réglé le problème de l'islam. Et leur prophète est toujours vivant. On n'a pas réglé ce problème. Et le prophète Hassan va partir de Uhud à Médine. Et donc là, justement, Abu Sufyan va dire c'est trop risqué. S'ils étaient restés dans le désert ou à Uhud, on aurait pu décimer le reste et ensuite attaquer Médine parce que là-bas, il y a que des femmes et des enfants. Mais comme ils sont retournés à Médine, là, c'est trop risqué. Et donc, d'une certaine manière, le rêve, Naam, il s'est réalisé. Naam. Et donc, le professeur Hassan, on arrive au vendredi d'après. On a dit là, c'était le professeur Hassan apprend la sortie de l'armée des Mekwa un samedi. Quelques jours plus tard, il l'apprend un samedi, il prend plusieurs mesures, comme on a dit. Ses éclaireurs reviennent, parce que ça, j'en ai pas parlé. Ses éclaireurs reviennent et lui disent, en effet, il y a une armée de 3000 hommes, et ils expliquent au professeur Hassan où est-ce qu'ils sont. Le professeur Hassan veut savoir par où compte entrer cette armée. Parce qu'à Médine, on peut rentrer par plusieurs endroits. Et ils ont dit, là, le dernier endroit où ils campent avant d'arriver à Médine, c'est à Aïnaïn, un endroit qu'on appelle Aïnaïn. Et quand on passe par Aïnaïn, c'est qu'on a l'intention, logiquement, de rentrer à Médine en passant par la montagne de Uhud. Et donc le professeur Hassan, il dit, nous les intercepterons à Uhud, puisque logiquement, c'est par là qu'ils vont passer, puisqu'ils ont campé à Aïnaïn. On arrive au vendredi d'après. C'est ce jour-là que le professeur Hassan met son armure. Il se prépare pour sortir, il prépare son armée. Un détail qu'on retrouve dans les livres d'histoire. C'est un détail. Mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est important de le dire parce que dans tout ce tumulte, dans toute cette organisation, on voit que le professeur Hassan continue à être un chef, continue à être un homme qui doit organiser des choses, qui doit faire face à des choses. Le jour du vendredi, où il décide de sortir pour les intercepter à Uhud, un de ses plus fidèles compagnons, Malik ibn Amr al-Ansari, un compagnon de Médine, décède. Et le prophète Hassan va faire la prière de Janaza pour ce compagnon, radiyallahu anhu. Et c'est important de le préciser. Le professeur Hassan, encore une fois, à chaque fois on dit le professeur Hassan a été beaucoup, beaucoup éprouvé dans sa vie. Et Allah Azza wa Jal a choisi de faire en sorte qu'une des dernières choses qu'il fasse à Médine avant d'aller vers la bataille de Uhud, c'est de de faire ses adieux à un de ses plus fidèles compagnons, Malik ibn Amr al-Ansari radiallahu anhu, de l'enterrer et de faire sa janaza et de l'enterrer. Et donc à ce moment-là, il va décider de sortir vers Uhud, mais d'abord il doit organiser une armée. Comment va être organisée cette armée et comment va se faire le chemin jusqu'à Uhud, c'est ce que nous verrons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala la fois prochaine. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.